Bonjour à tous, je suis Nicolas Nolf. Bienvenue dans Boss Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu l'épisode 0. Dans ce podcast, je vais te parler du parcours qui m'a amené à cette drôle de démarche qui est Boss Autrement et que tu découvres aujourd'hui. Alors toi qui me fais l'honneur de m'écouter, savoir à qui on a affaire, c'est toujours utile. Puis se présenter, on dit toujours que c'est la moindre des choses. Alors on y va, j'ai 42 ans et à peu près aussi loin que remontent mes souvenirs, on m'a toujours dit que je ne fais rien comme les autres. Ça fait des années que j'entends ça. Enfant, mes copains de classe, quand ils revenaient du zoo, ne me croyaient pas parce que moi j'affirmais avoir déjà vu des babouins vivre en liberté. La raison à ça, c'est que j'ai grandi plusieurs années en Afrique du Sud et que pour moi, c'était un spectacle assez fréquent, mais évidemment pas pour mes petits copains de classe restés en France. Quand j'étais ado, j'ai connu les États-Unis un peu autrement que par les séries télé américaines. J'ai été élève d'échange dans un lycée dans l'Ohio entre 1992 et 1993 pour un an. J'ai vécu avec une famille américaine, j'ai vécu leur quotidien et le quotidien de mes camarades de classe américains. Quand j'étais étudiant, j'ai fait des études d'anglais à l'université de Grenoble et j'ai voulu me mesurer à un concours qui s'appelle l'agrégation. J'ai jamais vraiment souhaité être professeur, mais j'ai surtout voulu tenter l'agrégation parce que pendant des années, mes profs et puis le reste de mes camarades me répétaient sans arrêt que c'était un concours qui était pratiquement impossible à obtenir, en tout cas impossible à obtenir du premier coup. Et moi, ça m'a donné l'envie de me mesurer à ce concours et de voir exactement ce que ça fait de tenter ce genre de concours réputé impossible pendant plusieurs années. Et en fait, je ne sais toujours pas ce que ça fait parce que la première tentative du concours a été la bonne et j'ai obtenu donc ce concours, l'agrégation, du premier coup. Je me suis retrouvé professeur à l'université quelques années plus tard. J'avais à cette époque-là 27 ans et donc j'étais titulaire de mon poste à l'université de Picardie. J'enseignais notamment la civilisation américaine, plutôt appliquée aux affaires. Et j'étais bien là où j'étais. J'étais titulaire de mon poste dans la fonction publique, donc il ne pouvait pas m'arriver grand-chose. J'avais un confort absolu de travail. Je décidais de mes contenus de cours. Donc je parlais toute la journée des sujets qui m'intéressaient. Et puis surtout, j'étais indéboulonnable de ce poste, sauf à vouloir me déboulonner moi-même de ce poste. Et puis quand j'étais en salle des profs, à l'époque, avec mes collègues, on avait souvent des discussions sur l'enseignement supérieur. Et bien souvent, mes collègues me parlaient des grandes écoles de commerce comme étant l'antithèse de l'université française. On prête tous les mots à la fois et toutes les vertus, finalement, à ces grandes écoles de commerce. Et puis, j'ai voulu voir ce que ça faisait d'aller se frotter à cette antithèse de l'université publique qu'est supposément la grande école de commerce. Donc j'ai eu l'occasion de commencer à donner les cours dans une école du nord de la France qui s'appelle l'EDEC et qui est une grande école de commerce réputée au niveau national et au niveau européen. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'étais toujours fonctionnaire et titulaire de l'université de Picardie pendant que je faisais ça et j'avais donc ce plan de carrière qui était finalement un peu écrit d'avance puisqu'il ne pouvait pas m'arriver grand-chose. Puis finalement, j'ai décidé de tout arrêter vers 31-32 ans pour saisir une occasion d'aller travailler dans le commerce international. J'ai fait diverses rencontres en fréquentant l'EDEC et jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui possédait une entreprise et qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Et cette entreprise était dans un secteur qui, pour la plupart des gens, paraît pas très sérieux, mais tu vas voir, pour moi, c'était quelque chose de plus que sérieux. C'est le secteur des animaux domestiques. Et en fait, parallèlement à mes études, mes années étudiantes et puis mes années en tant que prof, j'ai toujours été passionné par les chiens en particulier, par une race en particulier qui est le Rottweiler. Et je me suis pris de passion pour cette race quand j'avais 19 ou 20 ans. Et je me suis mis à la compétition canine avec un chien, puis plusieurs chiens, des concours de beauté, des concours de travail, des épreuves de sélection. Donc j'ai vécu cette passion vraiment pour les chiens en marge de mon métier pendant des années. Ça m'a amené à faire beaucoup de très très belles rencontres, de me déplacer un petit peu partout dans le monde autour de ma passion pour cette race. Je plaçais la barre assez haute également dans cette passion. J'ai préféré très rapidement aller mesurer mes chiens à ceux des meilleurs éleveurs de la race, dans le berceau de la race en question, qui est donc l'Allemagne. C'est une passion qui, au fil des années, a placé les chiens de mon élevage sur quatre continents dans le monde et m'a fait rencontrer des gens du monde entier et nouer des amitiés très solides et fait faire des rencontres absolument passionnantes. Donc, au moment de rejoindre le secteur privé, eh bien, je rejoins tout simplement une entreprise qui est un spécialiste des accessoires pour les animaux de compagnie. Et donc, j'ai à peu près 31-32 ans à cette époque-là. Et des formations, peut-être de ma formation initiale très académique, hein, j'ai éprouvé l'envie à ce moment-là de retourner à l'école pour apprendre un certain nombre de choses sur le business que je ne maîtrisais pas encore. Et me voilà parti donc à retourner à l'EDHEC, cette fois de l'autre côté du pupitre, en tant qu'élève, pour suivre le programme qui s'appelle Executive MBA de l'EDHEC. Donc à cette époque-là, quand le reste de mes amis profitaient de leur week-end, moi je partais suivre une vingtaine d'heures de cours à Lille et faire des études de cas et des choses tout à fait passionnantes sur des séries de cours de 2 jours avec mes camarades là-bas, avec ma pile de livres sous le bras. Alors j'ai beaucoup appris en tant que salarié en entreprise. J'ai connu dans l'entreprise l'échec comme la réussite. J'ai repoussé beaucoup de mes limites, beaucoup de mes préjugés, beaucoup de mes a priori. J'ai beaucoup aimé travailler dans le privé. C'était un mode de vie très différent, un état d'esprit très différent de ce que j'avais connu dans la fonction publique. Donc pour ça, toutes les promesses de décalage par rapport à la fonction publique ont été tenues par l'entreprise. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et en 2011, malheureusement, on m'a annoncé, alors que je travaillais pour un groupe américain, toujours dans le secteur des animaux domestiques, on m'a annoncé que j'allais être licencié économique. Et on m'a annoncé ça un vendredi, et pour moi, le monde s'écroulait, ce que je croyais être le monde s'écroulait. J'avais un très beau salaire, un métier très intéressant. J'étais directeur des grands comptes internationaux pour ce groupe américain dans 9 pays d'Europe. Donc je vivais la vie de businessman international avec un gros portefeuille en millions de dollars à gérer. Donc c'était tout à fait passionnant et valorisant, et j'adorais ça. Donc, quand on m'a annoncé un vendredi d'octobre que j'allais être licencié économique, j'étais absolument effondré. J'ai passé le week-end à me demander d'ailleurs comment j'allais faire pour prendre ma revanche, parce que j'estimais que ce n'était pas très juste, en plus, ce qui m'arrivait. Donc j'ai passé tout le week-end à me dire que j'allais aller postuler pour le même type de job chez un concurrent et montrer à mon ex-employeur de quel bois je me chauffais. Ça a été mon sujet de préoccupation le temps d'un week-end. Et puis le lundi, on m'a annoncé une autre nouvelle. On m'a annoncé tout simplement que j'allais être papa et que j'allais être papa de jumeaux. Voilà, donc quand je reparle de mon parcours, c'est cette annonce du vendredi du licenciement économique et cette annonce du lundi que je vais être papa de jumeaux, c'est ce que j'appelle un aller-retour, tu sais, comme quand on se prend deux baffes dans la figure. Un aller le vendredi et le retour le lundi. Donc on prend 5G au freinage et 5G à l'accélération consécutivement et on voit plus du tout les choses de la même manière à ce stade-là. J'aurais pu retourner à ce moment-là vers mon métier d'origine qui était enseignant et y être tranquille pour élever mes enfants et reprendre mes marques. Bon, même là, j'ai pas forcément fait ce que tout un chacun aurait fait. On a décidé avec mon épouse qu'on allait entreprendre. Alors tu sais, je crois que c'est Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, qui dit qu'un entrepreneur, c'est ce type qui saute d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. Je crois que c'est peut-être un petit peu vrai, me concernant. On a travaillé d'arrache-pied toute la fin 2011 et toute l'année 2012 pour créer une entreprise. Et donc en 2012, on a eu, comme je le dis souvent, trois enfants, un garçon, une fille et une entreprise. Alors mon entreprise, elle est composée d'une marque de pet food. Donc je suis resté dans cet univers de l'animal domestique que j'aime tant. Donc une marque de pet food et un site marchand qui assure la distribution notamment de ma marque de pet food. Donc on m'a prédit à ce moment-là évidemment que je ne passerais pas la première année parce que le marché du pet food était hyper saturé, que absolument tout avait été déjà tenté et inventé dans le pet food et qu'il était absolument impossible de créer comme ça ex nihilo un nouvel acteur sur le marché du pet food et que tout ça n'allait pas voir le bout de la première ou de la deuxième année. Bon, voilà, on a beaucoup travaillé et 5 ans plus tard, on fête dans quelques jours l'arrivée de notre 11e salarié et on a un chiffre d'affaires qui se compte en millions d'euros annuels. Donc, semble-t-il qu'on a plutôt réussi à tirer notre épingle du jeu sur ce marché du pet food réputé imprenable. Arrivé là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a l'entreprise, on est dans la 6e année, ça fonctionne, on en vit très correctement, on en fait vivre très correctement des salariés avec nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on s'assoit est-ce qu'on boit frais, comme on dit, et on profite de la vie? On va dire toujours pas, ou alors on boit frais, beaucoup plus frais que la moyenne. Et me voilà installé depuis juillet 2017 avec ma famille en Finlande. La Finlande parce que mon épouse en est originaire et que on parle donc deux langues à nos enfants depuis leur naissance et qu'on a souhaité arriver à l'âge d'à peu près 5 ans pour nos enfants, eh bien, leur offrir cette chance qui est le bilinguisme complet en allant notamment à l'école en Finlande, qui en plus bénéficie d'un système scolaire très très réputé en Europe et dans le monde. Donc on a décidé de saisir cette opportunité, cet alignement des planètes pour nous, pour basculer du côté de la Finlande pour notre vie quotidienne. C'est pareil, ça c'est pas forcément un choix extrêmement classique. Déjà, la Finlande en soi n'est pas forcément le pays auquel on pense en premier pour l'expatriation. Et puis ensuite, bah, quand on est chef d'entreprise, on ne pense pas nécessairement s'éloigner physiquement, géographiquement, au long cours de sa société. J'ai parlé d'alignement des planètes. Ce sont des planètes qu'on a passées en réalité plus d'un an à aligner justement pour que ce changement puisse se faire et qu'on puisse s'éloigner physiquement la plupart du temps de l'entreprise. Donc mes tâches au quotidien dans l'entreprise, elles sont effectuées à distance. Mes fournisseurs sont partout en Europe, hein. J'en ai en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Croatie, j'en ai en Finlande aussi. J'ai en France bah, toute mon équipe qui est une équipe fabuleuse et qui travaille selon un système qu'on a entièrement conçu et pensé pour être opérable comme ça à distance avec un maximum d'autonomie pour nos salariés de façon à ce que notre présence physique tous les jours dans les bureaux ne soit absolument plus indispensable. Alors on est bien en Finlande, évidemment. C'est un pays qui est très agréable à vivre. C'est très clean. Les gens sont très respectueux du bien collectif, notamment. Donc c'est très reposant. C'est un pays où on est en parfaite sécurité partout où on se trouve tout le temps. C'est un chouette pays pour élever des enfants. Et l'école, à ce niveau-là, tient vraiment toutes ses promesses. Mais bon, je ne suis pas venu ici que pour la forêt et les lacs. Et donc, en février 2018, je démarre ce site, Boss Autrement, avec ce blog, avec ces podcasts, avec toute cette création de contenu. destinée à d'autres que moi. C'est un exercice intellectuel à titre personnel que je trouve très intéressant, parce que réfléchir à ses propres pratiques, les décortiquer pour les expliquer à d'autres personnes, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. À titre perso, c'est très très structurant. Et puis, ben, j'imagine que ça peut servir aussi, bien entendu, à un maximum d'autres personnes et notamment d'autres chefs d'entreprise. Alors, il pourra t'arriver de trouver que c'est une démarche prétentieuse, immodeste, arrogante. Mais pour qui il se prend celui-là à venir philosopher comme ça sur sa carrière et sur ce qu'il a fait et parler de lui et de son parcours comme ça autant à la première personne, etc. Bon, c'est pas très grave si c'est ce que tu penses. Quoi que je fasse dans ma vie depuis le début, j'ai eu droit à ces qualificatifs d'être immodeste, d'être prétentieux, de me croire mieux que les autres ou différent des autres, de me croire à part, de penser que je suis un cas particulier. C'est pas très grave, du coup j'ai l'habitude de ça. Ça a souvent été, ces jugements-là, je les ai souvent rencontrés par des gens pour lesquels mes projets et mes réalisations semblaient, leur semblaient absolument impossibles, impossibles à eux. Et du moment que c'est impossible pour eux, que ça ne peut pas se concevoir, eh bien, ils refusent de te croire, quoi. Ils refusent de croire que ça peut être possible dans l'absolu, et d'entendre que toi, tu l'as fait, et encore moins d'entendre comment tu l'as fait. Parce que peut-être qu'entendre comment tu l'as fait va leur rappeler un peu trop fortement que c'est faisable. Et que si eux ne le font pas, c'est avant tout quelque chose qu'ils doivent régler en eux-mêmes, pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Et évidemment, il est plus confortable de t'en vouloir, de montrer et d'étaler ce que toi tu as fait, que d'aller vers cette introspection. Donc, c'est pas très grave, et on va parler de tout ça ensemble. J'espère que tu seras surtout essentiellement curieux de la manière dont on peut s'y prendre pour en arriver à ça, en arriver à pouvoir créer une entreprise, faire en sorte qu'elle fonctionne et jusqu'à s'en extraire physiquement au quotidien, là où la plupart des entrepreneurs décrivent un quotidien extrêmement accaparant, d'être en permanence l'homme clé au centre de tout, sans lequel rien finalement ne se passe, d'avoir des salariés vraiment dépendants de leur présence au quotidien dans l'entreprise et de ne pas pouvoir s'imaginer une seconde en être absent autrement que pour 8 ou 15 jours de vacances une fois par an. Donc c'est vraiment sur ça que j'aimerais te proposer une réflexion. Et puis ben, je ne me mets pas brusquement comme ça à faire le malin, ouais, à me mettre en avant. Ça fait à peu près 40 ans finalement que je marche en dehors des clous, comme je viens de te l'expliquer. Puis finalement, c'est quoi les clous? Quels clous? Les clous plantés par qui? Les clous pour aller où? Pour moi, il n'y a pas de destination à tout ça. Je n'ai pas dans ma tête de but préconçu auquel j'estimerais, une fois que j'y serai, eh bien, que je suis parvenu ou arrivé à quelque chose ou au summum et que je peux m'arrêter là. Pour moi, il n'y a pas de destination. La seule chose qui m'intéresse, c'est le voyage. Les personnes qu'on croise, en chemin, ce qu'on peut recevoir de ces personnes, ce qu'on a l'occasion, de leur donner aussi. Et ces dernières années, ben, au fil de ce chemin, notamment autour de l'entrepreneuriat, ben, j'ai évidemment croisé énormément d'entrepreneurs. J'ai été très actif dans le nord de la France ces dernières années autour de l'entrepreneuriat. Je suis lauréat et ancien administrateur de réseau Entreprendre Hainaut, qui est un réseau d'entraide et de soutien au développement personnel des chefs d'entreprise. Ce sont des problématiques qui m'intéressent énormément et j'ai rencontré par ce biais-là et par d'autres énormément d'entrepreneurs, des gens de tous horizons, de tous âges, tout domaine, tout profil. Au cours des conversations multiples que j'ai eues avec eux, j'ai toujours vu briller finalement dans les yeux de ces gens la même flamme, la même passion pour ce qu'ils ont entrepris, les mêmes rêves d'indépendance aussi, de pouvoir maîtriser davantage leur temps. Souvent, ce sont des gens qui ont connu la vie salariée avant d'entreprendre et qui ont juré que une fois qu'ils auront commencé à entreprendre, eh bien, les choses seront différentes et qu'ils auront une meilleure maîtrise de leur temps et de leur destinée. Je vois chez ces entrepreneurs le même souhait de construire une équipe, de faire vivre cette équipe et de faire de tout ça le projet de leur vie. Donc c'est quelque chose de très positif et c'est vraiment un dénominateur commun qu'on retrouve chez les entrepreneurs, j'allais dire même du monde entier. C'est pas uniquement limité aux entrepreneurs français. Très souvent aussi, j'ai vu leur désillusion à ces entrepreneurs. J'ai vu leur frustration, l'aliénation qu'on finit parfois par rencontrer dans ce métier, parce qu'on est, quand on fait ce métier, responsable de tout, au centre de tout, tout le temps, ou presque. On est le remède à tout pour son équipe, le point de référence pour toute son équipe, pour ses prestataires, pour ses fournisseurs, pour ses clients, bien souvent. Et on est, bien entendu, à la fois la source de toutes les solutions, bien souvent, mais aussi la source de tous les maux. On est pointé du doigt, on est dénigré. L'entrepreneur en France n'a pas forcément toujours bonne presse. Hein. C'est encore pour une bonne partie des gens l'affreux patron hein, qui est toujours soupçonné de chercher à profiter des salariés, à abuser de la situation, à les exploiter, etc. Il y a toute une fantasmagorie qui est très française d'ailleurs autour de ça. Et donc c'est dur à porter pour beaucoup de gens. Et j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs le poids de cette situation-là sur leur vie familiale, sur leur santé, sur leur équilibre personnel. C'est quelque chose qui occasionne des dégâts quand c'est pas maîtrisé, quand on ne prend pas assez de recul dessus, quand on ne travaille pas aussi sciemment et délibérément, consciemment sur ces aspects-là. Et c'est vrai d'ailleurs que l'entreprise aille mal, auquel cas on ne sait plus trop par quelle boule à prendre et on est stressé et on n'est pas bien. Mais c'est vrai aussi souvent, même quand l'entreprise va bien, j'ai souvent rencontré des entrepreneurs dont la boîte était en plein développement, avec des perspectives extrêmement intéressantes, extrêmement prometteuses, et aussi être dans ce mal-être. Parce que ne sachant plus où donner de la tête, en ayant l'impression que ça va trop vite, que tout leur échappe, et se demander mais comment je vais faire pour développer tout ça, pour financer la croissance, pour piloter le développement de l'entreprise, l'expansion des équipes. On a commencé, on était 2, 3, 4, 5, et puis ben, demain on va être 8, 10, 15, 20, 30, et mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que je saurais aussi bien manager demain 12 personnes que je savais le faire quand on était 3 ou 4? Donc ça renvoie comme ça à plein plein d'interrogations, même souvent, y compris quand l'entreprise va bien sur le plan de ses perspectives business. Alors, tout ça, j'ai vécu les hauts, j'ai vécu les bas, plutôt dans l'ordre inverse d'ailleurs, d'abord les bas, ensuite plutôt les hauts. J'ai vécu tout ça, je continue de le vivre régulièrement, ces hauts et ces bas, je continue de vivre ces moments d'euphorie, ces moments de confiance, de planification, ces moments de doute aussi régulièrement, ces moments d'anxiété, les interrogations constantes. Et voilà, et je me dis que tout ce que j'ai vécu, ce que je continue de vivre actuellement, ça peut servir à d'autres personnes. Alors tu vois, moi j'ai fait un choix assez extrême qui est de m'éloigner quand même loin de l'entreprise. Pour le coup, quand je dis je télétravaille, j'ai pas fait les choses à moitié. Tu vois, j'habite à 2 000 km de mon bureau. Je vais pas t'apprendre à déménager à l'étranger. C'est pas le sujet du truc. Ce que je vais te montrer par contre, c'est que tout ce que j'ai mis en place pour parvenir à m'extraire du quotidien de mon business au point de pouvoir m'éloigner physiquement sur des périodes longues, puisque je reviens au bureau en France à peu près une semaine toutes les 6 en moyenne, ben tout ce que j'ai dû mettre en place pour faire ça, toute cette mutation de mon entreprise, ces changements profonds dans ma façon de travailler, dans notre organisation, dans la façon de concevoir mon rôle, toutes ces choses-là peuvent servir à plein d'autres choses. C'est pas forcément la destination n'est pas forcément d'aller partir à l'étranger. Ça peut te servir par contre à plein de choses. Ça va te servir à te poser régulièrement, par exemple. Juste ça, avoir retrouvé de temps en temps de vraies soirées, des vrais week-ends, peut-être même va savoir des vraies vacances où tu déconnectes vraiment mentalement de l'entreprise. Rétablir un équilibre personnel aussi, parce qu'on a besoin aussi de temps pour soi, tout seul. Un équilibre perso dans lequel tu auras le temps de nouveau de réfléchir à des choses, de pratiquer un loisir, peut-être d'étudier un nouveau sujet, quelque chose qui est connexe à ton entreprise ou qui n'a rien à voir avec ton entreprise, et un sujet simplement dont tu es curieux et que tu souhaites creuser. C'est très agréable et c'est une oxygénation de ton cerveau qui est extrêmement importante et utile au reste de ton travail quotidien pour ton entreprise. Passer plus de temps avec tes enfants, ça aussi c'est sympa. Passer un temps de meilleure qualité en famille. Passer du vrai temps pendant lequel on est vraiment avec sa famille. On n'est pas physiquement présent dans la pièce, tu sais, et puis mentalement ailleurs, dans ses soucis, dans le dernier email qu'on a vu du coin de l'œil sur son téléphone, entre deux cadeaux qu'on ouvre à Noël, tu vois, le truc où tu n'arrives pas vraiment à décrocher. Ça va te permettre de prendre du recul, tout simplement, sur ton entreprise et sur le rôle que tu joues dans ton entreprise. À cultiver ton équipe pour qu'elle se développe. C'est un bonheur absolu de voir ton équipe se développer. Et il faut que ça devienne un bonheur absolu de voir ton équipe se développer. Si tu ne prends pas de plaisir à gérer cette équipe, à la voir progresser, à la voir se développer, avec toutes les boîteries de croissance, tu vois, là c'est l'ancien éleveur de chiens qui parle, toutes les boîteries de croissance qui peuvent arriver, tu sais, quand les choses bougent, quand les choses avancent et qu'il y a... Il y a de la friction, il y a de la résistance au changement, il y a de l'anxiété chez tes salariés, ils se posent des questions et c'est pas facile parce qu'ils viennent quelquefois te poser ces questions et d'une manière plus ou moins agréable, plus ou moins bien pensée, etc. Donc ça doit, c'est normal, voilà, l'idée c'est que tu comprennes que c'est normal et que ça te sert à finalement à développer, à cultiver ton équipe pour qu'au final l'entreprise, cette entreprise qui se développe, ce soit elle. Ce soit ton équipe, l'entreprise, et pas toi. Que tu arrêtes d'être l'homme clé permanent et la cheville ouvrière permanente de tout. Ça peut te permettre d'adosser ton entreprise à un système qui soit plus fort que quiconque. J'entends par là que tu dois pouvoir arriver à mettre en place une organisation qui en elle-même est plus importante que les cas particuliers et que l'organisation soit plus forte que toi-même et même surtout plus forte que toi. C'est super super important que tu arrives à aboutir à un système qui soit finalement le driver de l'entreprise et que ce ne soit plus toi qui soit le driver de l'entreprise. En gros, ça permet d'apprendre à ne plus être chef mais à devenir dirigeant. C'est pas la même chose. À travailler non plus dans ton business tous les jours au milieu de la bataille, mais travailler davantage et plus souvent sur ton business, sur ses tenants et aboutissants, sur son organisation, son bien-fondé, sa stratégie, son déroulement. Prendre ce recul pour ne plus travailler uniquement tous les jours dans le business, mais surtout sur le business. Et l'idée justement, c'est ça, c'est d'apprendre à bosser autrement et à être boss autrement. Alors voilà, dans les grandes lignes, et même un petit peu plus hein, que les grandes lignes, tu sais un peu mieux qui je suis et d'où je sors. Sur nicolanolf.com/blog, tu retrouveras toutes les notes et les liens associés à ce podcast et à tous les futurs podcasts qui suivront. Dans un prochain épisode de podcast, dans un prochain article également, je reviendrai plus en détail sur pourquoi j'ai choisi cette façon-là de m'adresser à toi, le type de contenu que je compte te proposer et tout ce qu'on peut faire ensemble. À la prochaine!